La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
La Croix, pays de l'inintelligible. La Croix, pays de l'inintelligible. Dans sa réalité nue, la croix elle-même n'est pas douce, non. Ni les clous, ni la lance, ni la sueur de sang, ni le « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La croix est dure, abominablement dure. En raison de notre faiblesse, cette dureté peut nous rester plus ou moins longtemps, plus ou moins dissimulée. Un jour arrive où il faut bien qu'elle apparaisse, et alors notre esprit est comme frappé d'égarement. Tous nos os ont été brisés, notre être saccagé, tout s'efface de ce que nous avions cru comprendre. Une main implacable a passé, qui nous a jetés vivants dans l'abîme de la mort. La voilà, la douce croix. Ce n'est rien de dire qu'elle nous met en face de l'intolérable. Il faut aller plus loin. Reconnaître que la croix, quand elle se montre toute nue telle qu'elle est, c'est l'inadmissible qu'elle nous impose. Est-il admissible que des milliers d'êtres faits à l'image de Dieu périssent misérablement dans des chambres à gaz et des wagons plombés, écrasés comme de la vermine par d'autres êtres humains? Est-il admissible qu'il y ait des hommes qui meurent de faim, des enfants qui soient livrés à la prostitution, des âmes immortelles, et telle ou telle dont vous avez pu entrevoir la beauté qui court en foule vers l'enfer? Est-ce que Rachel peut admettre que ses fils lui soient pris par la mort? Et tant de mères dans le pays de Bethléem dont Hérode a massacré les nouveau-nés? Nous sommes trop futiles, cependant, pour savoir ce qu'est la douleur des autres. Mais maintenant, quand c'est nous-mêmes qui sommes atteints, alors les écailles nous tombent des yeux. Nous voyons tout à coup que l'inadmissible emplit le monde et que la mort, fût-ce d'un seul homme, parce que le principe immanent de sa vie est un immortel esprit, et que les larmes, fût-ce d'un seul innocent parce qu'il est innocent, sont en réalité des choses que la pensée se refuse à admettre. Elles ne sont pas seulement intolérables à la sensibilité, elles sont inadmissibles à l'esprit. Heureux si, quand nous sommes vraiment frappés nous-mêmes, nous ne nous sentons pas sur le point de dire à Dieu: puisque votre amour pour moi me traite de cette façon-là, eh bien, mon amour pour vous vous rendra la pareille, et rien n'est plus facile, car vous êtes le plus vulnérable des êtres. Et puis, une vérité se fait jour en nous. Si la croix nous impose ainsi l'inadmissible, c'est parce que d'abord, la liberté de l'homme a imposé à Dieu ce qui est inadmissible à Dieu, le péché, le mal de Dieu. Et Dieu, non pour se venger, mais pour faire miséricorde aux hommes et pour me racheter moi-même, a envoyé son Fils parmi nous, pour lui faire souffrir en toute plénitude un certain jour où tous les temps sont rassemblés, ce qui est inadmissible à l'homme. L'inadmissible auquel, depuis la chute, il arrive un jour à chacun de se heurter au détour du chemin. Et ce que le Christ a souffert le vendredi saint, c'est un rayon, un des innombrables rayons de cela qui atteint maintenant notre chair et est imposé, ou, pour parler plus vraiment, proposé à notre cœur. Jacques Maritain, de la grâce et de l'humanité de Jésus, 1967. Le mystère de la croix fait que le chrétien est toujours un étranger au monde. Dans le mot étranger, il faut entendre une étrangeté pour le monde, voire une incompatibilité avec le monde. Être dans le monde mais non pas du monde, telle est finalement la grande réflexion de Maritain après la Deuxième Guerre mondiale. Le texte que vous avez entendu au tout début de cette émission, en ce mercredi saint, est un hommage à Maritain qui est toulousain quand il écrit ce texte de l'humanité de Jésus. Il est ici dans les cabanes des petits frères de Foucault, qui ont été démolies maintenant. Elles étaient juste mitoyennes du couvent des Dominicains à Rangueil. Et il a vécu dans ces cabanes jusqu'à sa décision de recevoir l'habit des petits frères. Maritain a vécu 12 ans à Toulouse. Il est mort à Toulouse le 28 avril 1973. Donc nous sommes dans le jubilé Maritain, en même temps que le jubilé Saint Thomas d'Aquin, dont nous fêtons les 700 ans de béatification. Et il est bon de lui rendre hommage avec des textes écrits dans sa période toulousaine. Avant de terminer l'émission sur un autre texte, qui est un texte très émouvant, pourquoi ? Parce qu'il est extrait de « Approche sans entrave », qui est une œuvre que Maritain a faite juste à la fin de sa vie, une sorte de toilette, de transmission de ce qu'il veut laisser avant de mourir. Donc il apporte le manuscrit de « Approche sans entrave » qui recoupe plusieurs textes, en particulier des cours qu'il a fait aux petits frères de Jésus, des notes qu'il a pu faire sur une imagination d'un monde sans argent, par exemple une utopie, de très grands textes au demeurant, en particulier sur l'embryon, sur la naissance de Ève, la différence entre l'homme et la femme à partir du deuxième récit de la Genèse. Et donc « Approche sans entrave » est apporté chez Fayard en février. Maritain fait son dernier voyage à Paris et il meurt en avril. Et c'est à titre posthume qu'Approche sans entrave est édité et je finirai l'émission sur un texte d'Approche sans entrave. Pour l'instant, je reviens à Pour une philosophie de l'histoire, texte de 57, dans lequel Maritain repense l'histoire à partir de la surélévation surnaturelle de l'histoire. Elle a une fin naturelle qui est le bien et elle est élevée surnaturellement. Qu'en est-il pour nous, chrétiens, à la suite du Christ ? Maritain est très clair. Le chrétien, parce qu'il n'est pas du monde, sera toujours un étranger dans le monde. Je veux dire, dans le monde, comme se séparant du royaume de Dieu et se fermant sur lui-même. Il est incompréhensible au monde et est pour celui-ci une source de malaise et de méfiance. Le monde ne peut rien comprendre aux vertus théologales. La foi théologale, le monde la voit comme un défi, une insulte et une menace. C'est à cause de leur foi qu'il tient en aversion les chrétiens, et c'est par leur foi qu'ils le vainquent. La foi suffit à les séparer du monde. L'espérance théologale, le monde ne peut pas la voir du tout. Il est simplement aveugle à son égard. La charité théologale, le monde la voit comme elle n'est pas. Il la comprend de travers, il se méprend à son sujet. Il la confond avec n'importe quelle sorte de dévouement généreux, d'ailleurs naïf à ses yeux, à une cause humaine dont il peut tirer profit. De cette façon, le monde tolère la charité et même il l'admire, selon qu'elle n'est pas la charité, mais précisément quelque chose d'autre. C'est ainsi que la charité est l'âme secrète du christianisme. En dernière analyse, il est excessivement difficile pour le monde de prendre son parti de l'existence même du chrétien. Il ne peut pas faire place au chrétien, si ce n'est à la faveur de quelques malentendus. Si nous étions réellement ce que nous sommes, si le monde nous connaissait pour ce que nous sommes, avec quel plaisir il tiendrait pour son obligation sacrée de nous hacher menus au nom du droit de légitime défense. Nous hacher menu, telle est l'expression de Maritain qui ne manque pas d'humour, mais les exégètes estiment à 2 ans, 8 mois, le temps de prédication du Christ, c'est-à-dire le temps où le Christ sort de sa vie cachée à Nazareth pour sillonner les champs, les chemins, le bord du lac de Tibériade. Et en 2 ans, 8 mois, il est sur la croix. Le hachage menu du Sauveur a pris très peu de temps. Du coup, le monde a-t-il besoin des chrétiens? Telle est la question. Maritain dit que oui, bien sûr. N'oublions jamais que le monde, si traîtreusement qu'il se comporte, est d'autre part racheté et vivifié par le sang du Christ et qu'il a terriblement besoin des chrétiens qui ne sont pas du monde et qui, vivant, travaillant, aimant et souffrant en lui, l'aident à avancer vers ses fins. Donc, regardons bien, il ne s'agit pas pour nous d'un combat comme deux armées en vis-à-vis, mais au contraire, d'un combat parce que le monde est aveugle. Donc il s'agit d'aimer le monde, non pas de le détester et de nous prendre pour des gens au-dessus. Non, c'est par une sorte d'humilité, hein. Humus, c'est le terreau, la terre, à la suite du Christ, hein, qui va très bas, puisqu'il va tomber 3 fois, et qui ira encore plus bas le samedi saint, descendre aux enfers, délivrer Adam et Ève. Eh bien, ce besoin du monde, il nous incombe à la suite du Christ. Ce grand besoin que le monde a des chrétiens, écrit Maritain dans « Pour une philosophie de l'histoire », est déjà vrai par rapport aux fins naturelles. C'est ainsi que l'histoire moderne nous révèle à chaque pas davantage combien la mission temporelle du chrétien est nécessaire. Il y a là un exemple éminent de la loi historique de progressive prise de conscience. Ce grand besoin du monde est encore plus vrai par rapport à la fin ultime surnaturelle du monde, et à l'accomplissement métahistorique du salut de l'humanité. Car il y a un travail continuel de rédemption effectué dans le corps mystique auquel tous les hommes de bonne volonté contribuent indirectement dans l'ordre de la causalité dispositive, mais qui dans l'ordre même de la causalité efficiente instrumentale est accompli par les membres actifs du Christ, j'entends les baptisés vivants dans la grâce, en bref, par l'application des mérites du Christ tout le long du temps. Comment penser le mystère de la croix comme mystère central pour l'histoire elle-même? Avec le mystère de la croix, l'incarnation du Verbe prend tout son sens, au sens de sommet et de perfection, au sens de Vollbracht en allemand. Dans les Passions, alles ist vollbracht, tout s'est accompli. Dans Voll, il y a l'idée de plénitude, tout est pleinement accompli, on arrive à une plénitude comme un verre plein et l'eau va déborder. Il y a cette idée d'accomplissement, de perfection que nous vivons dans cette semaine sainte. Comment Maritain peut-il envisager de manière philosophique, pour une philosophie de l'histoire, écrit en 57, ce mystère de l'incarnation au plan de l'histoire? Bien sûr, Maritain rappelle que le royaume de Dieu est déjà venu. Et il va montrer qu'il y a 3 risques, 3 erreurs à ne pas commettre. La première, il l'appelle l'illusion anthropocratique, suivant laquelle l'homme lui-même est l'homme seul, c'est-à-dire soit le pouvoir de la science et de la raison humaine, soit l'automouvement de l'histoire humaine, aurait reçu la charge de réaliser le royaume de Dieu ici-bas. Il y a l'illusion satanocratique, suivant laquelle le monde est complètement abandonné au diable, sans qu'on puisse espérer aucune espèce de progrès véritable et de réalisation évangélique, si imparfaite soit-elle, dans notre ordre social, temporel et politique. Et il y a l'illusion théocratique, qui par le pouvoir sacral voudrait changer le monde. Notre monde historique est la cité sociale, temporelle et politique en royaume de Dieu. Vous voyez que la dernière illusion théocratique correspond à ce que Maritain va désigner par ère sacrale. C'est l'ère médiévale où il y avait une alliance du trône et de l'autel. Après cette ère sacrale, Maritain va faire entrer l'ère de la modernité, qu'on caractérise en 1492 par la découverte de l'Amérique, et qui correspond à un anthropocentrisme. La renaissance, vous voyez tous l'homme de Vitruve dessiné avec, dans un cercle avec des mesures. On va mesurer le corps humain, on va mesurer le monde, on va pouvoir en faire le tour et ça change tout. Il n'est plus infini, il n'est plus illimité, il est au contraire délimité sur le globe. On va aller explorer les pôles au XVIIIe siècle, se rendre compte que c'est aplati, etc., etc. Du coup, cette ère anthropocentrée va s'arrêter pour Maritain à la guerre de 14-18 et il proposera un nouvel humanisme théocentré pour faire le départ, la séparation entre le trône et l'autel et ne pas entrer dans cette illusion d'un théocratisme qui est anti-évangélique finalement. Vous avez finalement rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une séparation qui demande d'être vraiment du monde, dans le monde, mais non pas du monde. C'est un problème crucial, très difficile, et Maritain prend plusieurs exemples dans une philosophie de l'histoire, et en particulier, dans les remarques finales, il va s'arrêter sur plusieurs mystères. L'un qui lui tient à cœur, et je voudrais en parler un tout petit peu en ce mercredi saint, c'est celui de la mission des Juifs. Maritain est le premier intellectuel au monde à prendre position en pleine montée du nazisme alors qu'il est marié à une juive et qu'il vit avec la sœur de Raïssa, Vera. Donc à la maison, on est entouré de juifs, de la communauté juive. Il écrit 1938, Impossible antisémitisme. Et il définit le mystère d'Israël justement comme un mystère et non comme un problème. C'est un mystère que Dieu envoie dans l'histoire pour nous maintenir dans une position mystérique par rapport au dessein de Dieu qui reste caché, immense, grandiose. Et cette vision lui permet de dénoncer l'antisémitisme, quelle que soit sa forme. Donc je voulais juste mentionner ce mystère finalement dans la marche de l'histoire et le rappeler pour souligner le courage, la droiture de Maritain. Et avant de clore notre émission et de rentrer dans le Triduum, je voudrais donc finir sur un grand mystère de la douleur en Dieu. Ce texte est extrait donc de « Approche sans entrave » que je vous ai présenté juste dans le premier tiers de l'émission. Et voilà ce qu'il en dit. Si les gens savaient que Dieu souffre avec nous, et beaucoup plus que nous, de tout le mal qui ravage la terre, bien des choses changeraient sans doute, et bien des âmes seraient libérées. Alors, cesseraient peut-être d'être fermés et privés de sens pour elles les mots qui leur disent que dans cette miséricorde où nous est si chère, même si elle ne peut être nommée que métaphoriquement la compassion, par laquelle il nous prend dans son cœur et y fait sienne notre misère, il a envoyé son Fils, factus homo, fait homme, souffrir et mourir pour nous. Au problème du mal, pris dans toutes ses dimensions, il n'y a qu'une seule réponse, celle de la foi dans son intégrité. Et au cœur de la foi, il y a cette certitude que Dieu, Jésus l'a dit de toutes les manières, a pour nous les sentiments d'un père. Était-ce à un vieux philosophe, bon tout au plus à tâcher d'ouvrir quelques portes, d'oser aborder devant vous en essayant de montrer qu'il ne faut pas le laisser seulement au poète, mais s'efforcer de l'intégrer à la théologie, le grand mystère de ce qui, en Dieu, infiniment parfait et infiniment bienheureux, correspond à ce que la douleur est en nous, non quant à l'effrayante marque d'imperfection qu'elle comporte, mais quant à l'incomparable grandeur qu'elle décèle aussi.